Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, pas moins de 15 millions de décès sont dus au cancer dans le monde chaque année, soit presque un décès toutes les deux secondes. Donc le cancer fait peur, l'annonce de la maladie est un véritable choc et au-delà des traitements classiques, bien sûr indispensables, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, les patients ont de plus en plus besoin d'une prise en charge globale intégrant la dimension psychologique, corporelle. Les études par exemple montrent que l'activité physique permet de limiter le risque de rechute de certains cancers. Alors comment mieux prendre en charge les patients dans leur globalité? Que faire pour personnaliser les traitements pour les malades, améliorer surtout leur qualité de vie? C'est ce que nous allons voir avec un exemple dans un centre de traitement à Aix-en-Provence. Pour en parler, je reçois le docteur Jean-Loup Mouisset, qui est oncologue médical et fondateur du centre Ressources à Aix-en-Provence, et Jocelyne Moynier, qui est atteinte d'un cancer du pancréas depuis 8 ans. Si vous avez envie d'intervenir, d'apporter un témoignage ou de poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Erard Lebeau de Emericourt, qui est médecin spécialiste en médecine nucléaire et qui a fondé un site Esperetti, qui est en fait un réseau social de malades du cancer. Et pour terminer, on parlera des bactéries résistantes aux antibiotiques. Docteur Jean-Loup Mouisset et Jocelyne Moynier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. En fait, vous êtes à Aix-en-Provence, hein, en direct des studios de France Bleu Provence. Merci d'ailleurs à France Bleu Provence de nous permettre d'établir cette liaison. Docteur Jean-Loup Mouisset, tout d'abord, pourquoi vous avez voulu créer ce centre ressources à Aix?
Dès le début de mon internat, de ma formation de cancérologue, j'ai bien vu et constaté que, comme vous l'avez dit, c'est un choc d'apprendre un cancer, une épreuve sur un plan humain. Et ça me paraissait impensable de m'occuper que de traiter avec des chimiothérapies, puisque je m'occupe des traitements médicaux, avec la lourdeur de ces traitements, l'incertitude des résultats, sans derrière aider les gens à donner du sens à pourquoi ils vont se battre, pourquoi je veux vivre et pas simplement survivre. Voilà, et c'était mon questionnement, et trouver un moyen d'aider les gens à donner du sens à cette survie pour qu'elle devienne une vraie vie.
Et on est bien d'accord, il y a toujours les traitements classiques, hein, ce que j'ai cité, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. Ce que vous apportez, c'est simplement, c'est un plus, mais un plus qui paraît indispensable d'ailleurs. C'est pas simplement.
Non, pour moi, c'est plus que effectivement un plus, c'est quelque chose qui transforme l'approche. Moi, je considère que les gens se retrouvent devant une montagne à grimper. Tout d'un coup, ils s'y attendaient pas, ils sont démunis. L'entourage aussi a peur. Vous l'avez dit, c'est quand même 440 morts par jour du cancer en France. Hein, 2 avions qui s'écrasent tous les jours. Ça effraie tout le monde. Et donc, face à ça, on se sent impuissant. Et bien là, on va dire dans ce centre, écoutez, il y a des traitements, il y a plein de choses qui sont prévues. Nous, on va vous aider. On va créer une équipe. Vous allez partir en équipe et on va vous équiper bien. On va vous nourrir, vous apprendre à vous nourrir bien. On va mettre un coach mental, un coach nutrition. On va travailler ensemble pour vous amener et avoir plus de chances d'aller là-haut.
De
en bonne santé, le mieux possible. Donc c'est vraiment préparer les gens pour devenir acteurs de leur santé, et vraiment que la maladie soit là ou qu'elle soit terminée, mais qu'on veuille éviter de récidiver.
Les aider à grimper cette montagne dont vous nous parliez tout à l'heure. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez?
Concrètement, on propose un accompagnement dans le centre, un lieu, bon, d'abord accueillant. On n'a pas envie en général. Hein.
Quand on ça a ressemble un cancer, à quoi?
On n'a qu'une
je
envie.
Je suis pas avec, ça ressemble à quoi?
C'était un centre de sport qu'on a récupéré. C'est un centre de fitness, remise en soi. On a tout réaménagé, mais à l'intérieur, il y a une piscine, il y a un hammam. Donc ça peut ressembler à un centre de bien-être et centre sportif. En fait, dans ce centre, on fait bien plus que ça, bien sûr, mais on va proposer, avec 120 bénévoles qui sont présents, des activités de bien-être. Alors ça va même de la psychologue, assistante sociale, médecin du travail, jusqu'à la réflexologie plantaire, ostéopathie, acupuncteur, des groupes de chant, des groupes de tai chi, de qigong, de yoga, de sophrologie. Bon, vous pouvez pratiquement tout imaginer comme technique, en individuel ou en groupe. Ça, c'est ce que j'appelle prendre soin de soi au quotidien, les activités de mieux-être. Et on va proposer, pour aller plus loin, un programme qui dure un an. Et ce programme, en groupe, et un groupe va se constituer, va vraiment se tisser des liens, et vont cheminer pendant un an ensemble pour vraiment apprendre à devenir acteur de leur santé. Et pour moi, je dirais, si je dois résumer, c'est vraiment face à ce qui vous arrive là aujourd'hui, qui vous êtes et qui vous voulez être. Et on va travailler à ce moment-là à définir cela et en même temps à se donner les moyens d'y arriver.
On reviendra concrètement sur ce programme d'une année, du comment ça se déroule. Jocelyne Moynier, oui. Vous, comment vous avez entendu parler de ce centre ressources ?
Bien, je me trouvais donc suivie par le docteur Mouisset et assez vite, il m'a proposé comme soutien d'adhérer au centre, aux petits ressources, parce que c'était un espace beaucoup plus petit que ce qui existe maintenant. Et pour trouver effectivement un soutien, un complément à ce que j'avais besoin, donc je doutais de tout, hein, puisque je suis assez sceptique sur tout. Et en fait, j'ai découvert vraiment des réponses de mieux-être. Je n'avais jamais fait de sophrologie. Je me suis exercée à la sophrologie. Ça m'a fait découvrir quelque chose d'extraordinaire sur moi-même.
C'est quoi exactement la sophrologie d'ailleurs?
Ah, c'est si vous recentrez. Vous arrivez à par un grand calme à recentrer des images et surtout des pensées pas seulement positives mais bonnes. C'est pas seulement le terme positif, c'est des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous mettent en bonne condition, qui vous détendent. Et moi qui étais je suis particulièrement nerveuse, non pas stressée, mais très nerveuse. Donc, j'ai pu me poser. Et ça, c'était extrêmement important pour la suite, de me poser, de prendre du temps. Et là, c'est ce que j'ai appris dans cet espace, donc ce que j'appelle le petit ressource, d'abord. Et voilà. Donc, et j'ai également accepté une séance d'ostéopathie, moi qui ne prenais jamais soin de moi. J'ai été toujours trop pressée, c'était toujours pour les autres, mais pas pour moi. Donc, j'ai accepté ça, et là, j'ai également découvert que faire du bien à son corps, eh bien, c'était un plus. Et dans cette période difficile, parce que la maladie, elle, n'attend pas, ça vous amène à un mieux-être, un confort, quelque chose d'extraordinaire. C'est presque indéfinissable.
Plus voilà. De sérénité, mais on l'entend dans votre voix. Comment s'est passée, Jocelyne Moynier, l'annonce de la maladie, l'annonce de votre cancer du pancréas ?
L'annonce,
oui, j'imagine c'est le ciel qui vous tombe sur la tête.
C'est ce que j'ai réfléchi beaucoup avant de venir à cette émission pour essayer de vous redire un petit peu, pour essayer de dire un petit peu effectivement. C'est un bouleversement, c'est quelque chose d'indéfinissable, c'est un bouleversement. Tous mes projets, tous mes rêves, je venais juste d'être à la retraite, il y avait un an, disons, que j'étais à la retraite. J'avais donc bâti d'autres projets, je pensais que j'avais un temps infini devant moi. Et en quelques instants qui m'ont paru une éternité, tout se bouleversait, c'était une tempête, c'était plus qu'une tempête. Voilà, c'est indéfinissable, mais c'est une émotion extrêmement forte, douloureuse. Ça n'a pas été facile d'accepter le diagnostic. J'ai fait comme tout le monde, je crois. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'étais très en colère, mais je ne savais pas
pourquoi moi.
Quoi. Voilà, même pas. C'est même pas pourquoi moi. C'était en colère qu'une telle maladie puisse exister. Voilà. Et voilà, j'étais comme ça. Ça, c'était dans la même journée. Hein. J'ai appris ça le matin. Et puis. Ce que j'avais envie de vous dire, surtout, j'ai eu une chance extraordinaire ce jour-là d'être orientée par mon ami et médecin traitant vers un oncologue qui s'appelle le docteur Mouisset et qui a comprendre mes attentes, parce que dans la journée, j'avais quand même réfléchi à ce devenir. je m'étais renseignée sur cette maladie.
C'est-à-dire qu'en gros, quoi, on vous l'a annoncé le matin et vous aviez rendez-vous dans la journée avec le docteur
Le soir même. Le soir même. C'est extraordinaire.
Et ça, c'est important, je pense.
Ah, c'est extraordinaire parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas des heures et des heures
à ruminer seul.
Exactement. Voilà. Et le soir même, j'avais donc des questions et une question principale. Je voulais connaître, je m'étais renseignée sur Internet. Forcément, vous avez, si vous avez envie de mourir plus vite, vous regardez les renseignements sur Internet. Vous n'avez aucune chance avec un cancer du pancréas. Et là, le soir, je lui ai demandé de me dire quel laps de temps j'avais devant moi pour m'organiser, car j'avais des choses à faire, des choses importantes pour que je sois tranquille si je devais partir.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a dit, il m'a donné un délai très court, mais il m'a dit, attention, il y a tellement de choses qui, tellement de progrès dans la science et dans les médicaments. Les laboratoires font des choses extraordinaires. Ça peut reculer encore un peu. Ça peut être un an. Ça peut être, ça peut aller jusqu'à trois ans.
8 ans?
Et là, je suis à 8 ans, oui. Bien sûr, je vais fêter ça.
Voilà. Et alors, quels sont les traitements que vous avez reçus?
Alors, j'ai uniquement de la chimiothérapie. La radiothérapie ne se proposait pas, ne répondait pas à ça, à ce type de cancer que j'avais, puisque c'est sur le pancréas et métastase au foie. Le foie était très envahi, donc j'ai bénéficié de chimiothérapie.
Et d'une chimio, vous continuez à bénéficier de chimio?
Quasiment pas arrêté.
C'est en continu.
Oui, sauf deux interventions chirurgicales, grâce à un chirurgien exceptionnel sur Marseille, le professeur Delpero, je veux le citer quand même parce que c'est lui qui a bien voulu prendre, entre guillemets, avec moi bien sûr, mais prendre le risque d'intervenir sur le pancréas, qui était une opération a priori qui ne se faisait pas, et me disant que le docteur Mousset m'ayant maintenu depuis trois ans et demi là, lui il allait faire la suite. Et voilà, j'ai donc été opérée du pancréas.
Oui, comprendre juste sur un plan technique, habituellement, soit on opère le cancer du pancréas tout de suite, soit a priori il n'est pas opérable. Ça, c'est la théorie d'aujourd'hui. Et là, on montre qu'effectivement, au bout de 3 ans, finalement, c'était possible. Et ce chirurgien a osé faire quelque chose qui n'était pas du tout standard. Il a accepté de personnaliser la démarche thérapeutique. Et de dire, ok, on va faire, pourquoi pas aller d'accord, pourquoi pas ça se présente bien. Voilà, il a pu enlever le pancréas 3 ans après, ce qui est incroyable. Et d'ailleurs, il a pu vérifier que c'était pas un cancer gentil, c'était vraiment un cancer agressif, sur le papier, au microscope. Et par contre, il a pas réussi effectivement à enlever les métastases hépatiques, il a pu opérer après.
C'est ça, le cancer du pancréas, c'est quand même un mauvais cancer, entre guillemets.
Le pronostic, quand on regarde sur Internet et quand on regarde les études encore, c'est malheureusement 6 à 12 mois, ce qui, me révulse parce que on est beaucoup trop dans une démarche standardisée, alors que dès qu'on propose une démarche personnalisée, on peut largement doubler ces chiffres et bien plus encore.
Si on prend l'exemple de Jocelyne Moignier, en quoi le traitement que vous avez proposé est personnalisé, justement?
D'abord, on a posé les choses, vous avez vu, clairement j'ai dit la gravité, elle le savait.
Oui, c'est ça, vous dites la vérité.
Oui, mais j'ai pas dit que c'était la vérité. J'ai dit, voilà le pronostic et la gravité, le potentiel de gravité. Maintenant, on va mettre en place un traitement, et tout est possible. Et je crois que c'est ça qu'elle a aussi entendu, c'est que, ok, j'y vais, j'ai compris la gravité, elle a pris des mesures essentielles, c'est-à-dire que même si ça se passait mal, elle serait morte debout, si je puis dire, parce que elle avait fait tout ce qu'elle avait à faire et elle laissait pas des choses derrière elle. Mais elle avait envie de vivre, elle a retroussé ses manches, on a fait les traitements, elle y a cru, et on a poussé ces traitements au bout. Au bout, il faut accepter de vivre 8 ans avec des chimiothérapies, mais pour autant, elle a pu aller au Canada, vivre des voyages au Canada, elle n'est pas que dans ces traitements, elle vit. Jocelyne.
Et justement, Jocelyne, vous supportez comment la chimio? Parce qu'on dit que c'est très fatigant, on parle de nausées, comment vous la supportez?
Bien, je ne suis pas une exception, donc je ne la supporte pas.
Vous avez aussi des
nausées. Voilà, je ne la supporte pas mieux que toute autre personne. Simplement, quand même, il y a aujourd'hui des médicaments supplémentaires, même pendant au cours de la chimio, qui viennent atténuer un peu, vous permettre de mieux supporter les nausées quand même. Bon, je n'échappe pas à la grande fatigue. Alors, c'est une gestion dans le temps. Ma fatigue suit la chimio, donc je sais à peu près maintenant pendant combien de jours je vais être très fatiguée, après moins fatiguée. Et puis dès que je suis beaucoup moins fatiguée, j'oublie complètement que je suis malade. C'est plus fort que moi, je ne peux pas être gérée par ma maladie. Donc voilà, je passe à autre chose et je vis. Et voilà, et comme Dr Mousset vient de vous faire remarquer, j'ai eu quand même la possibilité il a organisé le traitement de telle sorte que je puisse aller au Canada. J'ai attendu 5 ans pour y aller puisque ce voyage m'avait été offert, mais j'ai pu le faire parce que voilà.
C'était votre cadeau de retraite, c'était ça?
Absolument, absolument. Je sais pas comment vous le savez.
Ah, moi, je me suis doutée. Vous disiez 5 ans pour attendre pour le prendre, vous voilà. Disiez d'être à la retraite, et donc vous avez pu faire ce voyage. Il y a 2 ans, 3 ans?
3 ans, ouais. Voilà. C'était voilà, extraordinaire. C'était le cadeau inattendu. C'était le souhait que j'avais fait et j'avais été pris au mot alors que j'avais fait. C'était un rêve. Et en fait, j'ai été prise au mot par l'ensemble du personnel dont j'ai été portée.
Pour pouvoir faire ça.
Voilà. Et donc, j'ai pu faire ce voyage. Mais c'est vrai que je fais d'autres choses. Enfin, je fais d'autres choses dans le sens que je vis pleinement tous les moments.
Tous les petits plaisirs de la vie.
Oui, tous les plaisirs de la vie. Je suis heureuse de tout ce qui m'arrive, de que ce soit au niveau familial, au niveau conjugal, que ce soit au niveau de petits voyages. Je peux pas toujours voyager très loin, mais ça fait rien. Je profite de tout. Je fais des rencontres exceptionnelles parce que cette maladie, bien sûr, m'amène un peu plus souvent en hôpital de jour que ce que j'avais prévu, bien évidemment. Mais pour autant, à travers cette hospitalisation, je fais des rencontres extraordinaires.
Avec des rapports qui sont certainement plus vrais avec les gens.
Et voilà, c'est ça.
On va droit à l'essentiel. Docteur Jean-Louis Mousset, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre programme sur un an dans ce centre ressources? Concrètement, ça démarre par quoi? On fait quoi?
On forme un groupe. Des personnes on leur en parle, elles ont du mal à comprendre ce qui va se passer, mais bon, on leur dit c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. En américain, on dirait empower cancer patients, rendre les patients plus forts. Ce programme, il y a 2 séquences. Il y a une séquence apprentissage. C'est important de travailler. On va apprendre à gérer le stress, mieux gérer l'alimentation, la communication relationnelle. On va apprendre des connaissances. Qu'est-ce que la maladie, les traitements, les cancers, les causes. Qu'est-ce qui va donc jouer pour ou contre la maladie. Ça, c'est des connaissances, ce qu'on appelle du côté très pratique, apprentissage. Et puis, il y a un travail en groupe. C'est une psychothérapie de groupe, mais ce n'est pas une psychothérapie pour transformer la personnalité, ce que beaucoup de psychologues en France ont du mal à comprendre. C'est une psychothérapie existentielle. Autrement dit, en groupe, on va travailler cette idée de, on va être solidaires ensemble, on va créer des liens, et on va trouver des solutions ensemble. On est 10, mais c'est pas 10 personnes. On va avoir une synergie ensemble, on va s'entraider, on va apprendre à être beaucoup plus authentique, apprendre à mieux communiquer, à être beaucoup plus près de notre vérité. Comme je disais tout à l'heure, découvrir mieux qui je suis vraiment. Je fais le calme intérieur, je parle, je m'expose aux autres, mais les autres vont m'aider.
Et concrètement, ça veut dire que les gens viennent dans votre centre, quoi, une fois par semaine?
Voilà, c'est une fois par semaine.
Ouais. Toute la journée,
4 mois, du coup. Puis toutes les 2 semaines pendant 8 mois, ça dure une demi-journée.
Ouais.
C'est 3-4 heures de présence, de travail chaque semaine, avec un thérapeute qui accompagne ces groupes. Donc là, j'ai une équipe aujourd'hui de 4 personnes, une 5e qui s'occupe aussi des aidants. Donc on parle des patients.
Donc on voit une psy, on fait un peu de sophrologie.
C'est pas forcément des psychologues, mais en tout cas, c'est des thérapeutes
qui sont
spécialisés dans la relation d'aide et qui ont des compétences et qui vont ensuite utiliser plus ou moins des vacataires spécialisés en communication relationnelle, en gestion du stress et autres. Ils vont accompagner ce groupe.
On peut profiter du hammam, j'ai compris qu'il y avait un hammam.
Et après, on peut personnaliser individuellement, on peut avoir accès à toutes les soins de mieux-être du centre pour travailler. Et c'est vrai qu'un des signes que les gens ont compris, ils prennent plus soin d'eux et ils vont venir régulièrement à des activités individuelles en groupe, en plus du travail du programme.
C'est ça, en plus d'une fois par semaine, ils peuvent revenir dans le centre régulièrement. C'est plus qu'encouragé, d'accord. On en reparle dans 3 minutes, juste après les informations, toujours de cette prise en charge globale du cancer.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge du cancer avec un exemple d'un centre de traitement global à Aix-en-Provence, le centre Ressources. Pour en parler, je reçois le docteur Jean-Luc Mousset, qui est oncologue médical et qui est justement fondateur de ce centre Ressources à Aix-en-Provence, et Jocelyne Moynier, qui est atteinte d'un cancer du pancréas depuis 8 ans. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Docteur Jean-Loup Mousset, juste avant les informations, vous étiez en train de nous expliquer en quoi consiste le programme sur un an dans ce centre ressources. Vous l'avez dit, un rendez-vous une fois par semaine dans les 4 premiers mois, une demi-journée. Mais les patients sont invités à venir, je dirais entre guillemets, le plus souvent possible dans ce centre ?
Oui, sans qu'on soit dépendant. L'idée, c'est que les gens identifient les ressources dont ils ont besoin, les choses dont ils ont besoin, qu'ils les trouvent dans le centre ou pas. L'avantage du centre, c'est que tout est là. Il y a 120 intervenants, il y a des quantités d'activités, donc on peut...
Et pas mal de sport, entre autres.
Ben, il y a aussi l'aquagym, l'aquagym, l'activité au sol, le tai chi, le qigong. Donc, il y a beaucoup d'activités possibles faites par des professionnels. Voilà, tout en rendant ce centre totalement accessible, puisqu'il est, il n'est pas payant au sens, il y a une participation volontaire aux frais du centre, mais les gens viennent et participent que s'ils peuvent, à hauteur de leurs moyens. C'est un modèle.
C'est-à-dire, si on n'a pas les moyens, on peut ne rien donner.
Un peu de rien donner. C'est un centre à but non lucratif et notre objectif est d'être accessible à tous.
Je suis
c'est
moignée.
Un modèle qui est réplicable finalement partout dans le monde.
Oui, vous avez déjà fait des petits, entre guillemets. Vous en avez
alors,
fait
on
un
a fait un petit à Montélimar, ça y est. Et puis, on a ce matin travaillé justement sur la Fédération des centres ressources qui va voir le jour. Parce qu'on a déjà d'autres projets à Montauban, Saint-Amand-les-Eaux. Enfin bon, il y a une dizaine de projets sur qui vont se mettre en place en 2016.
Pas mal dans le sud. Jocelyne Moynier, racontez-nous, vous y allez tous les combien de temps dans ce centre ressources ? En quoi alors, ça vous aide ?
Alors, moi j'y vais. Alors, j'ai participé à ce que le docteur Mousset expliquait au niveau du programme d'accompagnement thérapeutique. Et donc, en 2011, c'était le premier programme. Là, j'ai tissé des liens très forts avec... plusieurs personnes du groupe, nous sommes restés très liés et donc nous continuons à nous soutenir les unes les autres. Et par ailleurs, moi je fréquente le centre ressources aussi souvent que j'ai besoin, c'est-à-dire que lorsque je sais que avant une chimio ça me viendra en soutien de faire une séance d'ostéopathie, je demande un rendez-vous pour pouvoir faire. Parfois c'est de la réflexologie plantaire, c'est voilà. Mmh. Et puis j'étais très sceptique, comme je vous le disais, je suis un petit peu rebelle. Je n'arrivais pas à accéder vraiment à la méditation. Et puis ça prend un virage dans ma vie et je vais donc accéder à cette activité-là parce que je suis prête. Voilà, pour...
Et ça vous aide. Et alors, Jocelyne, vous avez dit une chose qui m'intéresse. Vous avez dit que vous avez gardé des contacts avec elle quand vous avez parlé du groupe de départ que vous avez suivi en 2011. Oui. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup des femmes qui viennent là, les hommes alors,
travail-là. Non, c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, bien sûr, le groupe était composé de 10 femmes. Sur les 10 femmes, 8 sont restées volontairement en contact. Depuis, bien évidemment, la vie a fait son œuvre, la maladie a fait son œuvre pour certaines d'entre elles, mais jusqu'au bout, nous sommes restés solidaires. Ça, c'est très important. Ce que je voulais dire, c'est également que l'accompagnement de ressources n'est pas simplement le temps que vous êtes encore en vie, ça dure aussi après, par rapport à vos proches, etc. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas où ça se fait ailleurs, mais je peux vous dire que là, ça se fait et c'est très important. Donc, voilà pourquoi nous sommes restés ensemble. Par contre, nous croisons dans ressources, on y va même simplement pour prendre un thé, des fois simplement pour être dans le salon d'accueil qui est très cosy, il y a une bibliothèque, il y a des fauteuils, vous enfoncez dedans, vous arrivez plus à
ranger. On est bien. Mais ma question, Jocelyne Moynier, c'était, il y a plutôt plus de femmes dans ce genre de centre? Et oui, je vois Jean-Loup Mousset qui rigole. Ça veut dire quoi? Non, mais parce que j'ai le sentiment que les hommes sont peut-être un peu plus réfractaires ou à ce genre de choses ou pas?
Ben, moi je réponds pour eux.
Oui,
je réponds pour eux. Et il y a forcément plus de femmes, peut-être liées aussi au type de cancer, mais il y a plus de femmes, bien évidemment. Mais seulement, il y a aussi pas mal d'hommes, et nous nous croisons, et nous croisons nos, comment dirais-je, nos ressentis, ce que nous apporte ressources, nos projets, voilà. Nous avons des échanges, et nous faisons des connaissances extraordinaires. Et là, j'ai un ami qui est pas très bien. Parce que vous liez des amitiés, vous vous y attendez pas. Mmh. Et vous liez des amitiés extraordinaires. Et j'ai un ami qui est hospitalisé actuellement, qui ne va pas bien. Mais, comment dirais-je, donc, je lui rends visite. C'est normal, ça fait. Voilà,
ça crée des liens, c'est incroyable. Oui. Jean-Loup Mousset, quand même, pour répondre à ma question, il y a plus de femmes qui acceptent de participer à ce genre d'activité dans ce centre?
Oui, historiquement, enfin, dans toutes les études, c'est vrai. 80% des ce sont des femmes et 20% d'hommes. Pour les hommes, c'est toujours difficile d'accepter de l'aide et de comprendre qu'ils peuvent se perfectionner et que, encore une fois, tout n'est pas à porter par soi-même. Voilà, donc c'est une difficulté pour les hommes. Mais par contre, ceux qui viennent, j'ai des témoignages d'hommes qui me disaient « mais je suis suicidaire et un mois après, je ne le suis plus ». Ça me manque de retrouver, toutes les semaines, j'ai envie de retrouver mes potes pour échanger. Et c'est vraiment des compagnons de cordée, des gens qui ont créé des liens. Quand je vois Jocelyne à côté, il devait y avoir Isabelle aussi,
oui,
qui a un cancer du sein métastatique depuis 4 ans. Mmh. Elle est hospitalisée. Samedi matin, elle m'appelle, Isabelle, essoufflée, pas bien. Et je lui dis, là, il faut que tu ailles aux urgences. C'est Jocelyne qui l'a amenée, parce qu'elle est seule. Donc, il y a vraiment une rupture aussi de la solitude. Il y a des créations de liens très forts. Et c'est extrêmement important. On sait, sur un plan médical, que les gens qui sont seuls ont de moins bonnes chances de survie que ceux qui vivent seuls.
Et la solitude est une des conséquences du cancer. C'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne au téléphone le docteur Erard Lebeau de Emericourt, qui est médecin spécialisé en médecine nucléaire et qui a fondé un site Esperetti. Docteur Erard Lebeau de Emericourt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Belgique, si je ne me trompe.
À Bruxelles, oui.
À Bruxelles. Exactement. Vous avez créé un réseau social multilingue destiné aux personnes atteintes de cancer. D'abord, pourquoi vous avez créé ce réseau social? Puis vous allez nous expliquer un peu comment il fonctionne.
Tout simplement parce que dans ma patientèle, en discutant avec les patients, je me suis rendu compte que les médecins, à notre époque, se focalisaient beaucoup trop sur la maladie et pas sur le patient lui-même. Et dans mes nombreux séjours aux États-Unis, dans les conférences, je me suis également aperçu qu'il y avait un mouvement qui était en train de naître il y a une dizaine d'années et qui arrive tout doucement en Europe et en France, qui redonne la place centrale aux patients. Et alors, c'est très intéressant de voir dans le monde anglo-saxon et au Canada que le patient n'est plus un patient mais devient vraiment un partenaire de soins de santé où il a son mot à dire. Et comme mon confrère docteur Mousset disait, ils ont un très beau mot aux États-Unis, c'est l'empowerment. Donc vraiment redonner la parole au patient, parce que ce n'est pas simplement intéressant pour la gestion de la vie quotidienne, mais les études scientifiques montrent que lorsque le patient joue un rôle actif dans la gestion de sa maladie, il peut avoir une meilleure qualité de vie et dans certains cas de cancer, une survie améliorée. On en parlait pour l'activité physique par exemple, mais c'est plein pour la solitude également. Donc le postulat de départ, c'était comment est-ce qu'on pourrait donner un outil aux patients qui n'ont pas la force de se déplacer dans des centres de bien-être ou qui sont à distance de ces centres de bien-être. Et donc, comment utiliser les moyens de technologie moderne pour justement redonner la parole aux patients. Et notre but, c'était vraiment de toucher la planète entière. Et donc, c'est pour ça que, alors, c'est peut-être une particularité de la Belgique, puisqu'on est multilingue en Belgique, mais c'était justement de pouvoir donner la parole aux patients
et votre site est multilingue. Je voudrais juste faire réagir le docteur Mousset.
Oui.
Voilà. Je voudrais faire réagir le docteur Mousset sur ce que vous venez de dire. C'est que vraiment, des études scientifiques ont montré l'intérêt d'un suivi global. Docteur Mousset, vous êtes appuyé là-dessus sur des études américaines, entre autres du professeur Spiegel?
Ah oui, ce qui m'a amené là-bas à Stanford, c'était de voir cette fameuse étude où il accompagnait des femmes qui avaient un cancer du sein métastatique, qui partaient avec un pronostic de 18 mois devant elles de vie, et qui, en simplement parce qu'elles se sont réunies, mais avec une psychothérapie certes très organisée, sur un an, en suivi en groupe, ce qu'on a mis en place à ressources finalement, eh bien, elles ont vécu deux fois plus longtemps. Et elles étaient beaucoup mieux psychologiquement. C'est-à-dire que non seulement c'était une survie plus longue, mais c'était une qualité de vie bien meilleure. Donc ça a commencé donc, comme ça, et d'autres études sont venues rajouter
ça. Mais c'est important de montrer que ça a été prouvé scientifiquement que c'est intéressant. Docteur Erard Lebeau de Emericourt, donc vous nous avez expliqué pourquoi vous avez créé ce réseau social, entre autres justement en lien avec ce genre d'études qui montrent l'importance du lien social. Comment fonctionne votre réseau? Parce qu'on y trouve, on peut échanger, mais on y trouve aussi des informations.
Alors, donc, on a voulu créer un réseau plus ou moins complet, qui est toujours en amélioration, évidemment. Donc, le but, c'est de redonner la parole aux patients et aux patientes qui, non seulement ont un cancer actuellement, mais également qui ont survécu à leur cancer et qui ont fait déjà tout leur chemin de soins et qui peuvent donner leur feedback, leur histoire, leur témoignage aux autres patients qui rentrent dans ce chemin. Donc, ça, c'est très, très important de pouvoir de mêler différents types de patients autour de la table. Donc on donne également des informations, alors surtout avec des, on a un blog avec des patients et des patientes qui racontent leurs témoignages, et ça c'est extrêmement important pour les patients parce que ça change un petit peu de l'information dogmatique qu'ils reçoivent à l'hôpital et sur la maladie, les traitements en chimiothérapie, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes en dehors de la maladie, les problèmes sexuels, les problèmes de relations, les problèmes d'argent, le problème de réintégration à l'emploi. Donc ça c'est également extrêmement important, et nous fournissons également des outils pour mieux comprendre ce que c'est que la qualité de vie, la gestion des symptômes, la gestion de l'observance thérapeutique, comment bien prendre son médicament. Donc c'est vraiment un outil global qui permet aux patients depuis son lieu d'habitation de pouvoir communiquer et d'en apprendre un peu plus sur sa maladie pour vraiment avoir un rôle actif dans la gestion de tout.
Vous dites que ça peut aider évidemment et que ça aide les patients, ça peut aussi aider les professionnels?
Alors, c'est un peu plus nuancé parce que d'abord les professionnels de santé n'ont pas trop le temps d'aller sur ce genre de site puisqu'ils sont déjà surchargés avec leurs patients. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de nouer des partenariats avec certains centres de cancérologie, et par ailleurs on est en train de mener une recherche sur le plan européen avec des patients en tout cas en Belgique pour l'instant, pour évaluer comment est-ce qu'on peut avec l'aide du médecin améliorer la qualité de vie des patients, et donc les patients seront suivis pendant un certain nombre de mois voire d'années, et autour de la table les médecins cancérologues pour voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, de mieux comprendre la gestion de cette qualité de vie de tous les jours, puisqu'on se rend compte maintenant que les patientes demandent de plus en plus à améliorer cette perception de la maladie et surtout de l'individu.
Merci beaucoup, docteur Erard Lebeau d'Emericourt. Le site internet, c'est esperiti.com, si je ne me trompe.
Esperiti avec un Y.
Avec un Y,
qui veut dire en fait le mot espoir, tout simplement.
Voilà. Vous aviez entendu parler de ce site, docteur Mouisset?
Non, j'ai appris grâce à vous.
Voilà.
J'ai regardé
donc
ça.
Vous allez pouvoir vous connecter.
Oui, j'ai vu, c'est bien.
C'est intéressant. Très, très bien. Merci beaucoup, docteur Erard Lebeau d'Emericourt, et on met bien les coordonnées sur notre site internet. Docteur Mouisset, je voulais revenir sur la question des études scientifiques. C'est important de dire que ça a été prouvé, qu'une prise en charge globale permet d'améliorer, et aussi de l'importance du sport, de l'activité physique, de la prise en charge psy, enfin d'une prise en charge globale, ce que vous faites.
Oui. Mais mon objectif, c'est vraiment de faire entendre que chaque chose, quelle qu'elle soit, doit toujours être au service de l'humain et de son chemin de vie. Faire du sport pour du sport comme un médicament, c'est pas intéressant.
Il faut que ça fasse du bien à la tête.
Voilà. Et de toute façon, on ne fait d'ailleurs, au bout du compte, que ce qui nous fait du bien. La preuve, les gens fument avec des photos affreuses sur les paquets de cigarettes, ça les empêche pas de fumer. Parce que ça leur fait du bien, et sur le coup en tout cas. Donc, on fait les choses parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a un plaisir d'exister. Donc, il faut travailler ça, voir qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien. Et c'est ce qu'on veut faire. Après, je voudrais vraiment que vous entendiez que voilà, le centre n'est pas un centre de traitement, c'est vraiment un centre pour rendre les patients plus forts. Et je donne l'exemple là de Justine.
Le traitement se fait dans les hôpitaux aux alentours, et c'est ça.
Mais regardez à quel point ça peut être utile pour les médecins, si vous voulez l'entendre. Je donne l'exemple de Justine qui devrait les frapper, parce que 8 ans un cancer du pancréas, c'est peut-être un record du monde. Lundi dernier, je vois sur mon ordinateur que ses marqueurs ont augmenté. Je me dis, jeudi, je la vois, mince, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais proposer comme alternative? Je la vois jeudi. Je me dis, tiens, elle m'appelle pas, c'est qu'elle gère, je la connais. Je dis, bon, je m'inquiète pas, je l'appelle pas. Effectivement, le jeudi, elle arrive, elle s'assoit, elle me dit, bon, voilà le scanner. J'avais pas demandé, elle avait fait faire le scanner. Il y a un nodule au niveau du foie qui repart. J'ai appris rendez-vous pour une IRM et rendez-vous avec le chirurgien derrière. Je dis parfait, j'ai plus qu'à signer. Je valide.
Validé. C'est le patient vraiment.
Fabuleux.
Qui... Oui, c'est
elle
ça, le patient.
Actrice.
Voilà, c'est
hein?
ça, le patient qui sait voilà. ce qu'il doit faire. On a Siam qui nous appelle de Paris et qui connaît bien apparemment ce centre ressources. Siam, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
C'est ça, vous étiez en train d'écouter l'émission et vous connaissez ce centre ressources à Aix.
Oui, oui, je salue d'ailleurs au passage le docteur Mouisset ainsi que Jocelyne. Bonjour Jean-Loup.
Bonjour
voilà,
Siam.
Oui, je tiens à saluer cette expérience. Moi, j'ai rencontré le docteur Mouisset un jour d'été 2012, un petit peu, voilà, pas par hasard, parce que je ne crois pas au hasard, mais en tout cas, ça a été une véritable révélation dans les expériences réussies en matière d'accompagnement du malade, de proche, enfin, de la personne, en tous les cas, je sais que ce mot, Jean-Louis, tient énormément.
Et est-ce que vous essayez du coup de lancer un centre comme ça à Paris?
Alors, j'aimerais bien. Enfin, je ne suis pas, en tout cas, pour le moment, prête à cela. Quand je vois le travail qui est fait, j'en suis absolument incapable à ce jour. Par contre, j'essaie de porter du mieux que je peux la bonne parole, et je fais actuellement partie d'un, j'ai été choisie en quelque sorte pour participer à un groupe de travail justement pour améliorer le parcours de soins du malade depuis l'annonce ou la pré-annonce en vie, parce que finalement la mauvaise nouvelle, on l'apprend assez rapidement, voire même selon les stigmates du radiologue, on arrive à percevoir la gravité de la situation. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans le témoignage de ce matin, et ce qui est vraiment pour moi, et c'est là que c'est une réussite, c'est une parfaite illustration de ce qui devrait exister partout en France, c'est la fluidité et la rapidité. Comment dire, le malade, si vous voulez, est pris en main très rapidement. Il fait les radios, il voit son médecin généraliste, il est très vite, une journée c'est quand même exceptionnel pour aller voir son oncologue, et très vite il est pris en main dans les traitements et dans l'accompagnement. Moi, je suis suivie dans un centre d'excellence à Paris. J'ai mis en quelque sorte presque 2 mois entre le moment où on m'a préannoncé le cancer et le moment effectivement où je rentre dans la maladie à travers les traitements, avec la fameuse consultation d'annonce qui finalement n'en est pas une, puisqu'on est...
Puisque vous savez déjà.
En général, quand on va dans un centre de lutte, on n'y va pas pour un mal de gorge. Par contre, ce que je tiens à souligner, c'est que toute cette période-là, justement entre le moment où on nous annonce la salle nouvelle et le moment où on rentre vraiment dans les traitements, on est tout seul. Et on est tout seul, comme disait Jocelyne, c'est vraiment l'apocalypse, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas comment faire, on est tout seul, on va évidemment sur Internet et on y trouve évidemment
les pires choses,
on se dit finalement que c'est mieux que j'aille au pont funèbre parce que voilà, c'est pas génial. Et puis encore plus quand on est, moi je suis travailleur indépendant, et alors là c'est la triple peine, parce qu'il faut en plus se soucier de son activité professionnelle,
ça, c'est très
et
compliqué.
Ça c'est particulièrement absolument, donc c'est un petit peu mon cheval de bataille en ce moment dans l'accompagnement du malade, et particulièrement du malade indépendant. Mais ce que je tiens à souligner ce matin, et c'est vraiment pour moi une grande réussite, ce centre, je dis à Jean-Loup très ouvertement et très sincèrement, il me connaît, que je vais évidemment mentionner l'expérience de ressources, parce que le groupe de travail, évidemment, les recommandations qui vont être faites vont remonter au niveau des pouvoirs publics, on va être force de proposition, et évidemment, je vais faire de ce centre un exemple, une exemplarité de ce qu'il faut faire en région. Voilà, ça c'est très important. Parce qu'on parle beaucoup de Paris, de ce qui se passe un peu dans les très grandes agglomérations.
Il se passe des choses intéressantes dans le sud de la France. Exactement. Merci beaucoup, Siam.
Voilà,
exactement. Merci beaucoup. C'est vraiment très bien. Une réaction, juste Jean-Loup Mouisset. Comment vous faites-vous pour recevoir les patients le jour même de l'annonce finalement du cancer?
Ça, c'est une chose qu'il faudrait, enfin, vraiment travailler dans la formation des médecins, parce que c'est très lourd, c'est vrai. Ça nous demande une grande, finalement, donner l'exemple aux patients. Ne paniquez pas face à ce qui arrive. Et du moment où, entre guillemets, on panique en voyant la charge de travail, où on a 10 personnes derrière, tout le monde me pousse pour valider les chimiothérapies, mais j'ai quelqu'un devant moi. Il faut que je prenne 10 minutes. Et c'est maintenant que c'est important, ici et maintenant, et c'est ce qu'on veut apprendre aux patients, et c'est ce qu'il faut qu'on mette en œuvre, nous, médecins. Et voilà, que c'est l'urgence pour le patient. Et répondre à quelqu'un, je vous rappelle, on parlait d'Alain qu'elle avait visité Jocelyne, qui est en train enfin, qui est vraiment pas bien. Je l'avais vu un soir très tard, parce que j'allais partir en vacances, et lui, ça l'a marqué. Il avait un pronostic au bout du compte de 6 à 12 mois, et ça fait 5 ans qu'il est traité. Mais il a toujours retenu le fait que je suis venu à 10 heures le soir, juste pour lui dire, écoutez, C'est grave ce que vous avez là, mais on a des moyens de se soigner. Et finalement, mon acte, il parle de lui-même. Si c'est j'étais là,
c'est pas forcément un rendez-vous très long, mais au
non,
moins.
Non, mais c'est que j'étais là. Si j'étais là, j'ai pris le temps, c'est que ça valait le coup. Si ça valait pas le coup, je serais pas venu.
Et docteur Moussé, juste une dernière question, quand même. Comment ça se fait? Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi Jocelyne Moynier vit depuis 8 ans avec son cancer du pancréas? Vous venez de nous citer quelqu'un d'autre qui avait une espérance de vie moins grande et qui vit encore avec. Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi?
Je crois que c'est difficile de donner une raison, mais première raison, elle se prend en main, elle est toujours restée debout face au choc, elle se laisse pas définir par ce qui arrive, et du coup elle réagit. Ça c'est important, le facteur temps, c'est important. Ensuite elle sait s'entourer, elle sait choisir, et puis il y a vraiment une dimension de respect de soi. À chaque fois, on l'a vu quand même, les médicaments marchaient, puis il y a un moment ils marchaient plus, et Jocelyne, elle a remarqué que dans sa vie, il y a quelque chose qui tournait plus tout à fait rond. Elle était plus sur son chemin. Et quand elle s'est remise sur son chemin, eh ben, le médicament, c'est comme si re-rentrait dans la serrure. Le médicament agit, hein. Ça, si on le fait pas, ça remonte. Mais vraiment, il marche aussi, ben, parce qu'elle est sur son chemin.
Ça marche. Mais juste un mot de conclusion, Jocelyne Moynier. D'abord, vraiment, merci, hein, d'avoir accepté de témoigner comme ça
aujourd'hui. Je vous en prie.
Un mot de conclusion. Parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Oui, un mot de conclusion. Je dirais que pour reparler de ressources et de cette prise en charge globale, il est excessivement important pour les proches, pour nos proches, pour ma famille. Je suis très, très entourée. Hein, mais ma famille ne savait pas. Ils essayaient de me protéger puisque j'étais l'aînée d'une grande famille. Et je changeais de statut puisque je devenais celle qui était malade. Et ils étaient inquiets et cette inquiétude me pesait quand même. Et lorsque j'ai trouvé ressources, lorsque ils savent que ce que je trouve à ressources, ma famille va mieux.
Aussi,
ma famille va bien.
Ça, c'est important de le dire. Voilà. Ça aide aussi la famille. Merci vraiment beaucoup, hein, Jocelyne Moynier, d'avoir accepté de témoigner. Votre témoignage est, voilà, redonne espoir.
Je vous remercie.
Merci beaucoup aussi, Jean-Louis Moussé. On mettra toutes les coordonnées, hein, de ce centre ressources sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Merci beaucoup à France Bleu Provence qui nous a permis d'établir cette liaison avec Aix, puisque vous êtes tous les deux dans les studios de Aix-en-Provence. Et on va terminer en parlant des bactéries résistantes.
Priorité Santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose de parler des bactéries résistantes aux antibiotiques. Docteur Véronique Mondin, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes au téléphone avec nous, vous êtes infectiologue dans le sud de la France, à l'hôpital Archéen au CHU de Nice. Vous vous êtes intéressée plus particulièrement d'ailleurs à quelles bactéries résistantes?
Bien, aujourd'hui, on est principalement concerné par le problème de la résistance des entérobactéries, c'est-à-dire les bactéries qui habitent notre tube digestif, à tous, qui sont normalement implantées dans notre tube digestif, et qui sont notamment l'Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, entérobactères. Donc toutes ces bactéries, aujourd'hui, sont soumises à une pression de sélection par les antibiotiques, dont vous savez qu'on en prend beaucoup trop, et finalement deviennent très résistantes aux antibiotiques, de plus en plus résistantes.
C'est ça, elles ont appris à se battre contre les antibiotiques. Quelles sont les pathologies concernées par les bactéries que vous venez de nous citer?
Alors, étant donné qu'elles sont dans notre tube digestif, on sait qu'elles vont remonter par le périnée et donner notamment les infections urinaires. Donc, ce sont les agents principaux des infections urinaires. Et puis, de temps en temps, ces infections, qu'elles soient pyélonéphrite, prostatite, se compliquent et ça peut donner des septicémies. Il est assez rare aujourd'hui de trouver des infections respiratoires ou autres par ces bactéries. De temps en temps, ça peut se faire, mais c'est essentiellement donc l'urinaire et les bactériémies.
Et alors, on s'aperçoit qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des infections urinaire, entre autres des femmes à répétition justement, sur lesquelles les traitements ne fonctionnent pas. Alors vous avez mis en place un kit BLSE. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous.
Oui, alors on est obligé de passer au moins par la définition de ce terme un peu barbare de BLSE. Je suis désolée, mais c'est indispensable.
Je vous laisse le prononcer parce que je n'ai pas voulu me lancer.
Ah, oui. Ce mécanisme de résistance, qui est donc le plus important, est un peu particulier parce qu'il est épidémique. Ça veut dire très facilement transmissible de bactérie à bactérie ou d'homme à homme. Donc on est obligé de le connaître. Donc bêta-lactamase à spectre étendu. Voilà ce que ça veut dire, BLSE. Bon, mais j'en parlerai plus qu'en BLSE. C'est plus facile. En tout cas, si vous voulez, l'histoire de ce kit, elle est due au fait que moi, en tant qu'infectiologue itinérant, c'est-à-dire médecin qui donne des conseils à mes collègues, dans tous les autres services de l'hôpital et pour la ville aussi, je me suis aperçue à partir de 2009 à peu près que j'avais de plus en plus d'appels de tous les médecins, des médecins de clinique, des médecins de ville, des médecins encore une fois d'autres établissements qui étaient un peu désemparés car trouvant ces bactéries, ne savant pas trop quoi faire pour, ne sachant pas trop quoi faire pour les traiter. En 2010, le Haut Conseil de Santé Publique en France, qui a bien évidemment lui aussi pris conscience de tout ça, a publié des recommandations. Et ces recommandations disaient en fait qu'il fallait informer, former les médecins, former les biologistes, informer les patients, donner des avis d'experts. Bon, tout ça, ce sont de très très bonnes recommandations, mais encore faut-il les mettre en application et les mettre en pratique. Et donc ce qu'on a eu un peu comme idée peut-être un peu originale, c'est de s'organiser de façon très très pragmatique sur ces recommandations. Et tout d'abord, on a été un petit noyau à créer des outils à l'hôpital, des outils qui n'existaient pas à l'époque, notamment pour des protocoles
réactualisés. Alors, il ne nous reste plus qu'une minute, donc il faut vous expliquer rapidement ce qu'il y a dedans. Voilà, exactement.
Et ensuite, on a essayé de collaborer avec la ville pour que tout le monde soit d'accord pour utiliser ces outils. On a évalué ces outils et on a montré leur très bonne intérêt dans le traitement des patients. Et donc aujourd'hui, comme cet outil a été montré comme étant très très intéressant, on a fait un site internet, et c'est ça le fameux kit BLSE, c'est un site internet que tout le monde peut trouver sur Google, qui permet de regrouper toutes les informations, protocoles et autres outils pour bien gérer les bactéries multirésistantes.
C'est ça, et entre autres, en faisant attention à l'utilisation des antibiotiques pour éviter la multiplication de ces résistances.
Ça, c'est la gestion de la bactérie une fois qu'elle est là. Mais le principal message aujourd'hui, c'est surtout réduisons notre consommation d'antibiotiques.
C'est très important.
Malheureusement,
beaucoup trop. On y reviendra. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Mais on refera une émission sur toute cette question des résistances aux bactéries. Et on mettra les coordonnées du site internet dont vous avez parlé. Merci beaucoup, docteur Véronique Mondin. Et demain, on parlera de la grippe. Et vous pouvez nous faire part de vos questions au 33 1 84 22 75 75.